Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
On termine ce matin la série Régner avec Christ et on va voir la dernière étape, Sion. Sion qui parle d'être fidèle dans le règne. On a vu, en s'inspirant de la vie du roi David, David qui a quatre grandes étapes dans sa vie. C'est quatre étapes où il est passé à des endroits, dans des lieux, et ces lieux géographiques, en réalité, représentent pour nous en Christ des saisons spirituelles. Il est passé à Bethléem, il est passé à Adoulam, et ensuite il est passé à Hébron pour enfin arriver à Sion. Donc c'est la fin d'une série. Si vous êtes là pour la première fois, donc on va conclure cette série qui s'appelle Régner avec Christ. Vous pouvez avoir les messages sur le site internet de l'église gratuitement pour écouter Bethléem, Adoulam et Hébron. Et on arrive à cette dernière étape qui s'appelle Sion. Sion, c'est régner, c'est être fidèle dans le règne. On a vu que Bethléem, c'est être fidèle dans les petites choses. On a vu que Adoulam, c'est être fidèle dans le besoin. Et Hébron, c'est être fidèle dans les relations. Et ce matin, nous allons voir que Sion, c'est être fidèle dans le règne. Et sans plus tarder, on va lire tout de suite un passage dans 1 Chronique, au chapitre 11, à partir du verset 4. Il est écrit « David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui s'appelait alors Yébouse. La ville était occupée par les Yébousiens, habitants du pays. Ces gens déclarèrent à David « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. David avait déclaré à ses hommes « Le premier qui battra les Yébousiens, je le nommerai commandant en chef de l'armée. » Ce fut Joab, fils de Tseruya, qui monta le premier à l'assaut, et il devint chef de l'armée. David s'installa dans la forteresse. C'est pourquoi on l'a appelé la cité de David. Il agrandit la ville par des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les cultures jusqu'aux murs d'enceinte, tandis que Joab restaurait le reste de la ville. David devient de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, était avec lui. Donc là, on voit ici, juste après Hébron, on avait vu ça la dernière fois, une fois que David avait fait alliance avec le peuple, sa propre tribu, Juda, et les 11 autres tribus d'Israël, ils décident d'aller à la conquête de Jérusalem, qui s'appelait alors Yébouse. C'était une forteresse naturelle. Et les Yébousiens, quand David arrive, se moquent de lui. Ils se disent, attends, David, tu n'arriveras pas à nous avoir. Un autre passage en 2 Samuel 5 nous dit qu'en réalité, ils regardèrent David et dit « Même les boiteux et les aveugles te feront courir. » Ils étaient fiers de leur forteresse. Et avant que cette ville s'appelle Jérusalem, donc cette ville s'appelait Yébouse. Et ensuite, Jérusalem est devenue Sion, représente Sion pour Dieu, la cité de David. Et ici, on voit que les Yébousiens étaient fiers de leur forteresse qu'ils pensaient imprenable. Il faut comprendre le contexte. Depuis que le peuple avait quitté le désert, depuis que le peuple avait quitté donc l'Égypte, le désert, était entré dans la terre promise avec Josué, personne n'avait pu conquérir Yébouse. Personne. Pourtant, Josué avait réussi à faire tomber les murs de Jéricho. Il avait réussi à prendre Jéricho qui paraissait imprenable. Après Josué, il y a eu des juges, Gédéon, Samson, des gars surpuissants qui n'ont pas réussi à prendre Yébouse. Donc les gars ici, les Yébousiens, regardaient David et lui disent « Tu peux essayer mon caf, comme on dit, c'est la Réunion. Tu n'arriveras pas à nous avoir, tu n'arriveras pas à nous conquérir. Avant toi, il y en a qui ont essayé et qui ne sont jamais parvenus. » Et on voit ici dans ce texte qu'en réalité, en un instant, David a fait la conquête de Yébouse. Et là, c'est très très intéressant et très fort pour nous. Parce que personne avant David et son armée n'avait réussi à conquérir Yébouse. Et j'aimerais te dire que spirituellement parlant, il y a peut-être un Yébouse dans ta vie aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose, peut-être un défaut de caractère, peut-être un péché, peut-être une addiction que personne, que tu n'as jamais toi-même réussi à conquérir, et le diable te nargue en te disant, tu n'arriveras pas à t'en sortir de cette façon de faire. Tu n'arriveras pas à sortir de ce côté rebelle que tu manifestes constamment. Tu n'arriveras pas, avant toi, ta famille a essayé. Tu n'arriveras pas à te défaire de cette colère. Tu n'arriveras pas à te défaire de ce sentiment de rejet. Ton papa était chrétien, ta maman était chrétienne, tes frères et sœurs étaient chrétiens et ils ont échoué. Pour qui te prends-tu ? C'est ce qu'ils disent ici à David. Et David, ils avaient une correction. David a fait la conquête de Yébouse en un instant. Mais ma question, c'est pourquoi David s'est-il emparé aussi facilement de Yébouse, qui est devenu Sion, Jérusalem, Sion, alors que les autres ont échoué ? La réponse est très très simple. Ils ont réussi à conquérir facilement Sion parce que Hébron était plus difficile de conquérir que Sion. Faire la conquête d'Hébron était plus difficile que conquérir Sion. Donc c'est pour ça que Sion, pour David et ses hommes, était comme un jeu d'enfant. Et on a vu la dernière fois Hébron. Cela signifie qu'on ne peut pas arriver à Sion sans passer par Hébron. On ne peut pas sauter d'étape et de faire de Adoulam à Sion. Toutes les étapes sont importantes pour notre croissance spirituelle, afin de régner avec Christ, afin que la paix règne en toi, afin que la joie règne en toi, afin que sa force règne en toi. Il faut passer par ces étapes spirituelles et pour régner avec Christ en Sion, il faut conquérir Hébron. Si tu arrives à conquérir Hébron, tu arriveras à conquérir Sion. On a vu rapidement maintenant un rappel. On a vu que Hébron, c'est le lieu où les relations font alliance. C'est le lieu où les relations immatures deviennent matures. C'est le lieu où les relations à Adoulam se querellaient étaient là pour eux. C'est le lieu où les relations sont plus là. Tu n'es plus là pour toi-même. Tu es là pour Christ, sa cause et pour l'autre. C'est le lieu où tu n'as plus de mentalité de contrat, mais tu as une mentalité d'alliance. On a vu que la mentalité de contrat, en prenant l'exemple du mariage, c'est on se marie parce que l'autre me fait du bien. La mentalité d'alliance, c'est je me marie parce que je veux le faire du bien. C'est pas pareil. Ça parle de sacrifice. Et on avait vu ça à Hébron. Hébron parle des relations. On avait vu qu'il n'y a rien de plus important que les relations. Parce que par les relations, tu peux expérimenter le ciel ou tu peux expérimenter l'enfer. Par les relations. Dieu est un Dieu relationnel. Et il nous a créés à son image, des êtres relationnels. C'est pour ça que le premier commandement, c'est notre relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même, le second qu'il est équivalent. Ça parle de relation avec Dieu, de relation avec les autres. Et on a vu que ça, c'était Hébron. Hébron, les autres tribus, et la tribu même de David, viennent faire alliance avec lui. Et à Hébron, il commence à faire des exploits. À Hébron, les relations deviennent matures. On a vu que lorsque les relations font alliance, à Hébron, le peuple de Dieu devient vraiment la famille de Dieu. Le peuple de Dieu devient le corps du Christ. Le corps de Dieu, le corps de Dieu devient une armée réellement. On a vu que c'est dans le cadre de l'alliance à Hébron que l'alliance donne naissance à la famille, que l'alliance donne naissance à l'intimité. On avait vu ça au niveau d'Hébron. Et faire la conquête d'Hébron est plus difficile que de faire la conquête de Sion. On a vu ensemble cela. On a vu que c'est dans le cadre de l'alliance que nous pouvons maintenant devenir la famille de Dieu et apprendre à aimer comme Christ aime. On a vu lorsque l'on s'engage dans l'alliance à Hébron, cet engagement à aimer comme Jésus aime va tester nos motivations dans nos relations, va tester notre loyauté, va tester notre caractère, va tester nos intentions que nous ne connaissons pas nous-mêmes parfois, mais ça va être mis en évidence. Mais ces relations-là, lorsqu'elles sont matures en Christ à Hébron, alors on apprend à aimer comme Jésus aime, parce que c'est le nouveau commandement que Jésus nous a donné. On avait vu ça à Hébron. Il a dit, le commandement nouveau que je vous donne, c'est aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La nouveauté dans le comme Jésus. Et c'est ça qui est difficile pour nous, mais en réalité, possible en Christ, possible par sa force, possible par sa grâce. Et si un couple apprend à s'unir dans ses relations et à s'aimer comme dans le cadre de l'alliance, et à s'aimer comme Jésus les aime et les uns les autres apprend à s'aimer comme Jésus les aime, alors ils marchent dans le principe de l'alliance qui est l'amour et ils font la conquête d'Hébron. Et si tu fais la conquête d'Hébron, Sion ne sera que la conséquence d'une relation baignée dans les principes de l'alliance. Le règne de Dieu va se baser, ne se basera uniquement que sur des relations qui sont fondées sur l'amour de Christ. C'est pour ça qu'Hébron est important. Et ça, c'est crucial. C'est pour ça qu'à Hébron, l'Église devient une famille pour la conquête. On a vu que le règne, le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est une affaire de famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, où ça? Sur la terre. Il veut que le règne vienne sur la terre. Qui? Notre Père, pas l'Éternel des armées célestes. Notre Père, parce que le règne est une affaire de famille. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Pour trouver ta destinée, je le disais hier avant-hier, souvent on partage plein de principes importants, mais il y a un principe à ne pas manquer, qui est le suivant. Souvent, pour trouver sa destinée, il faut trouver sa famille spirituelle. Je prends l'exemple de Ruth dans la parole de Dieu rapidement. Ruth est une Moabite, une étrangère. Et son mari meurt. Son beau-père meurt. Et sa belle-mère, Naomi, quitte le pays et rentre à Jérusalem, en Israël. Et Naomi dit, je veux te suivre. Ruth dit à Naomi, je veux te suivre. Et Naomi dit, non, c'est pas la peine. Et pourtant, Naomi s'engageait, elle est engagée avec Naomi. Ruth est engagée avec Naomi. Et elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et là, Naomi la regarde, fait, wow. Son engagement à suivre Naomi. Et du coup, Ruth est devenue la mamie du roi David. Du coup, une étrangère est dans la lignée de Jésus-Christ. Elle a une renommée en Israël. Les gars ont dit d'elle à la fin qu'elle valait 7 hommes. Tellement la femme avait de la valeur. Et c'est impressionnant parce qu'elle avait fait alliance. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Que tu trouves ta famille spirituelle, alors tu trouves déjà en partie ta destinée. Reste accroché. Engage-toi pour Jésus-Christ. Et on avait vu ça, c'est Hébron. Et Hébron est la conséquence qui nous emmène. Lorsqu'on applique Hébron, qu'on pratique Hébron, alors Sion devient la conséquence. Si vous préférez, pratiquer Bethléem, être fidèle dans les petites choses. Pratiquer Adoulam, être fidèle dans les besoins. Pratiquer Hébron, être fidèle dans les relations. La conséquence directe de tout ça nous amène à Sion. Il n'y a plus besoin de forcer. Parce que Dieu, quand il te teste à Bethléem, quand il te teste à Adoulam, quand il te teste à Hébron, et il voit que tu es vainqueur dans les tests, c'est lui qui emmène la promotion pour Sion. Amen. C'est lui qui t'emmène à Sion. C'est lui qui lui-même t'élève. Si tu préfères que tu arrives à Sion, quand on arrive à Sion, et c'est ce que Dieu veut pour l'Église, pour 2014, l'Église avec un grand E, et nous ici à Extravagance, c'est-à-dire que Dieu veut amener l'Église à un autre niveau. Dieu veut promouvoir l'Église, Dieu veut promouvoir son peuple. Il veut baser son règne sur une famille qui a des relations basées sur l'alliance, qui s'aime dans le leadership, dans toute l'Église. Pas que nous, bien sûr, et les autres églises qui marchent dans les voies de Dieu, dans sa parole et ses principes. Parce qu'il veut manifester Sion. Il veut amener la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et vous allez mieux comprendre dans un instant pourquoi. Sion, c'est le lieu, donc, où Dieu fait ta promotion parce qu'il a vu que tu t'es préparé. Il te dit, maintenant, tu es prêt. Faire sa propre promotion soi-même, c'est être prématuré. Mais lorsque Dieu, lui-même, fait notre promotion, alors on est mature, maturé, si tu préfères. Avant, passe par nos propres efforts, c'est prématuré. Mais quand Dieu lui-même fait la promotion, tu es mature. Et ça, c'est Sion. Dieu est plus intéressé par ton caractère que par ta carrière. Dieu est plus intéressé par ton caractère que par ton confort. Dieu est plus intéressé par ce que tu es que par ce que tu fais. Il est plus intéressé par ton cœur que par tes actions. Même si nos actions doivent refléter son cœur. Mais quand la promotion vient de Dieu, alors on n'a pas forcé. C'est pour ça que David n'a pas forcé pour conquérir Yébouse. Parce que Sion, c'est aussi le lieu de victoire collective. David n'a pas fait la conquête de Sion tout seul. Il a une équipe autour de lui. Quand les gars se moquent de lui, les Yébousiens se moquent de lui, David ne prend même pas la peine d'aller lui-même. Il dit, bon, les gars, qui est prêt à les mettre une raclée, s'il vous plaît? Qui veut bien y aller? Et Joab était le premier, mais la Bible dit qu'il y avait plein qui sont partis. Les gars disent, ah, les gars, c'était des guerriers. Je vais les matraquer. Les gars étaient unis. Ils avaient fait alliance, des vaillants guerriers. C'est une victoire collective. Et ça, c'est important. Sion est une affaire de famille, une affaire collective. Et pour amener le règne de Dieu dans l'Église, dans la nation, au travers de l'Église, il faut comprendre que c'est une affaire collective. Et l'apôtre Paul avait bien compris ça. Dans 2 Corinthiens 2, verset 12, écoutez ce qui est écrit. Il dit, « Je suis allé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille, parce que je n'avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. » Waouh ! Le grand apôtre Paul, dont le mouchoir fait fuir les démons et guérit les malades, le gars à l'onction, le gars à l'autorité, Dieu l'envoie à Troas. Pourquoi Dieu l'envoie ? Dieu lui ouvre une porte, pas petite, largement ouverte, pour gagner des âmes et les arracher de l'enfer, pour amener la délivrance, amener le règne de Dieu. Mais l'apôtre Paul, quand il arrive, il dit, « Ah, mon esprit n'était pas tranquille, j'avais un souci. » C'était quoi son souci ? Son pote n'était pas là. Il dit, « J'ai pas trouvé Tite. » Et ça m'a fait Tite. Il dit, « J'ai pas trouvé Tite. J'ai pas eu l'esprit tranquille. » Et je suis rentré. C'est impressionnant. Parce que l'apôtre Paul savait qu'amener le règne est une affaire collective. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Et si l'Église comprend que le temps des one-man shows s'est terminé, et que le temps maintenant que l'Église s'élève comme une famille et aille à la conquête de sa nation, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est nous. Tu ne viens pas à l'Église, tu deviens l'Église. Et sois l'Église là où tu es, parce que tu es l'Église. L'Église ce n'est pas un bâtiment. Nous devons comprendre cela. Et l'apôtre Paul dit, hey, non, je n'ai pas trouvé mon ami Tite. Dieu envoie souvent les gens deux par deux. Sion, donc, c'est le lieu de la victoire collective. Sion, c'est le lieu où coule le lait. Sion, c'est le lieu où coule l'onction plutôt et les bénédictions. C'est le lieu où la bénédiction coule à cause de l'unité. Parce qu'il y a alliance. Et là, tu batailles plus. Tu batailles plus. C'est comme au lieu d'essayer au mieux que l'Église se bat à essayer de chasser les démons de la raison dans la nation. Et se bat à essayer de combattre l'esprit de fornication et d'homosexualité dans la nation. Le véritable ennemi, c'est le manque d'unité, c'est la déloyauté. C'est pas ça se dit, c'est pas grave. Le véritable ennemi, c'est l'esprit de jalousie. Le véritable ennemi, c'est les querelles. Le véritable ennemi, c'est la rébellion. Le véritable ennemi, c'est les rivalités qui cassent l'unité. Et après, on se trompe de combat. Mais si l'Église, déjà, en elle-même, est unie, et gloire à Dieu si toutes les Églises sont unies, mais je vous garantis, Dieu aimerait, son cœur, c'est que toutes les Églises soient unies. Mais si déjà, il trouve une Église, ou deux ou trois, entre elles ou entre elles-mêmes, capables de manifester l'alliance de Christ, il est capable de se servir d'un homme, il est capable de se servir d'une Église, il est capable de servir un peuple, il est capable de se servir de ceux et celles qui marchent dans ses voies pour faire la différence. C'est ça qui est important. Et au lieu de perdre son temps à ce que l'Église se batte contre l'esprit de fornication dans la nation, l'Église doit se dire, attends, comment faire pour marcher dans la loyauté? Comment faire pour conquérir Hébron? Et si tu fais la conquête d'Hébron, alors Sion va venir, Yébouse va tomber après. Pourquoi? Parce que l'unité va attirer l'onction, la faveur, la bénédiction. Psaume 133, verset 1 nous dit ceci. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là où, à Sion, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais avant d'arriver à Sion, il faut conquérir Hébron. Et à Sion, Dieu déploie sa faveur. Il dit, vous n'avez pas encore vu, vous n'avez rien vu, vous n'avez pas encore vu de la bonté que je suis capable de manifester en votre faveur. Vous n'avez pas encore vu, mais à Sion, tu commences à découvrir. Et le règne de Dieu se manifeste en toi et au travers de toi. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas en toi, tu ne pourras pas le manifester au travers de toi. Si tu n'as pas la paix en toi, comment tu vas la libérer au travers de toi? Tu libères autour de toi l'atmosphère qui est en toi. Et ça, c'est Sion. Le lieu de la bénédiction qui coule avec abondance. David avait réussi à élever une armée aussi capable que lui, même plus capable que lui. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce que Jésus veut faire avec nous. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes. Tu feras des choses plus grandes. Pasteur, il bataille déjà dans mon couple. Merci Alain. Il bataille déjà dans mon couple des choses plus grandes que Jésus. Jésus a dû tromper. Il ne s'est pas trompé. C'est nous qui manquons de foi. Nous ne croyons pas. Pourtant, c'est lui qui le dit. Et David avait réussi à élever une armée. Il n'est même pas parti, il a délégué son autorité. Joab est parti et ils ont fait la conquête de Yébouse. Pourquoi? Parce que Sion, c'est aussi le lieu de reproduction. Si tu préfères, le lieu de production des disciples. David a délégué l'autorité et Joab a fait tomber Yébouse. David devait regarder de loin. Super les gars. Wouhou! Ah cool. Et Jésus assis sur le trône et il dit à son église, hey, j'attends maintenant que tu fasses de mon ennemi mon marche-pied. Tu es mon corps, donc mes doigts de pied sont avec toi. Écrase-le un peu s'il te plaît. L'église. Mais pour être un corps, il faut comprendre ce qu'est Hébron. Et à Sion, c'est le lieu où on fait des disciples. Écoute bien ceci, tu enseignes ce que tu sais, mais tu reproduis ce que tu es. Tu enseignes ce que tu sais, mais tu reproduis ce que tu es. Une des autres façons, après ces quatre étapes, d'aller à Sion, c'est de suivre quelqu'un qui y est déjà. De suivre quelqu'un qui est déjà en train de régner avec Christ. Un exemple, en tant que disciple de Jésus-Christ, si tu veux réussir dans ton couple, ben, prends des leçons d'un couple qui réussit. Si tu veux avoir un couple qui est waouh, comme on a vu avec le pasteur Bruno et Elodie hier, mais que tu as un ami que tu aimes, mais il est dans son sixième, septième divorce, et qu'à chaque fois il te dit, c'est pas ma faute, hein. Je dis peut-être qu'il est triste et dur pour lui et que tu vas le voir, que tu lui demandes un conseil en lui disant, dis-moi, comment avoir un couple fort s'il te plaît? Je te dirais, mais ça ne va pas la tête. Peut-être que le gars peut donner des conseils, mais tu enseignes ce que tu sais et tu reproduis ce que tu es. C'est pas pareil. Donc si tu veux un couple waouh, va voir un couple waouh. Si tu veux être des parents qui déchirent, va voir des parents qui déchirent. C'est simple. C'est ça, faire des disciples. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. C'est ce que le pasteur Bruno a partagé. Jésus ne veut pas de fans, il veut des disciples. Il veut faire de toi un disciple. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que Jésus veut reproduire son succès en toi. Amen! Trop tard. Il veut reproduire son succès en toi. C'est quoi son succès? Il veut reproduire son amour en toi. Il veut reproduire sa paix en toi. Il veut reproduire sa puissance en toi. Il veut reproduire sa joie en toi. C'est ce qu'il veut. C'est ça un disciple. Il veut reproduire en toi ses qualités pour que ses qualités soient manifestes au travers de toi. Devenir un disciple de Jésus, c'est devenir un champion pour Jésus. Un disciple, c'est celui qui reçoit la vie de Christ et qui suit quelqu'un qui a la vie de Christ. Il reçoit la vie de Christ par sa relation avec Dieu et sa relation avec un mentor. Mais lui aussi, qui reçoit cette vie, donne la vie. Donne pas une doctrine ou juste ce qu'il sait. Parce que tu enseignes ce que tu sais, mais tu reproduis ce que tu es. Et Sion, c'est le lieu des warriors pour Jésus. Où il y a une telle unité que Dieu dit là, à Sion, là j'envoie la bénédiction. Là, ouh, Yébouz va capoter, mon ami. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Se reproduire en nous. Romains 8, verset 29 nous dit ceci. En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est ce que Jésus veut qu'on devienne, ce qu'il a connu d'avance, il soit prédestiné à devenir conforme à l'image. Conforme à l'image de son Fils. Toi et moi, on est prédestinés, si tu as accepté Jésus, à devenir comme Jésus. À devenir conforme à l'image. Pourquoi devons-nous devenir conformes à l'image? Pourquoi? Parce que nous sommes créés et nés de nouveau, recréés à son image pour l'intimité. Pour l'intimité. La même nature, si tu préfères. L'image signifie qu'on a été recréé à la même nature, avec la même nature que Jésus, pour avoir une intimité avec Jésus. En tant qu'homme, on ne peut pas avoir une intimité avec un pied de bois, un arbre. Ce n'est pas la même nature que nous. Il faut un face-à-face, un vis-à-vis. Pareil, pour qu'il y ait une relation et qu'il y ait une intimité. On est créé conforme à son image pour qu'il y ait une relation, une intimité. Et la conséquence de cette intimité, de cette relation, c'est quoi? La domination. Si tu préfères, c'est un autre mot pour le règne. C'est quand tu es en communion de par ta relation avec Christ Jésus, par le Saint-Esprit. Alors, par l'Esprit de Dieu, la domination de son règne commence à se manifester. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cela signifie que par le Saint-Esprit, on peut avoir une communion. Frères et sœurs, et de cette communion, de cette intimité, c'est pour ça qu'on est conforme à son image. Cette intimité produit la paix. Cette intimité produit l'amour. Cette intimité produit la joie. Cette intimité produit la puissance, l'autorité. Et en mon nom, les malades seront guéris. Et en mon nom, vous chasserez les démons. On a eu, je vous garantis, un vendredi et un samedi où les démons ont gagné le coup. Et ce n'est pas fini. Parce que Sion, c'est le règne. C'est l'enfant de Dieu qui règne. C'est l'enfant de Dieu qui manifeste son autorité. Mais l'autorité est juste une conséquence de sa relation. Pourquoi? Parce qu'il a fait la conquête d'Hébron. Et à Hébron, c'est la relation. Tu co-règnes avec Christ, avec les autres, en Christ. Et alors tu vas à Sion et tu es prêt parce que tu as passé le test. Tu as été transparent. On a vu ça à Hébron. Et il veut nous rendre conformes à son image pour l'intimité, pour la communion, pour manifester la puissance. Et alors Dieu est présent dans cette relation. Et sa présence fait toujours la différence. Sa présence emmène la puissance. Sion, c'est on reprend ce qu'Adam et Ève a perdu dans le jardin d'Éden. Go back to la mission. Retour vers la mission. C'est Sion. Sion, c'est le lieu de la présence de Dieu. David avait amené le tabernacle à Sion. C'est le lieu où Dieu est présent. Si tu préfères Sion, c'est le lieu où le ciel touche la terre. C'est le lieu où, dans la relation, tu expérimentes le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Où ? Sur terre. Sur terre où ? Sur le sapin ? Sur nous. Pourquoi faire ? Pour se manifester au travers de nous. Sur la terre, comme au ciel. Sion, c'est le lieu où le ciel touche la terre. C'est ça, Sion. Psaume 48, verset 2, nous dit, « Oui, l'Éternel est grand, et bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte, colline magnifique, joie de la terre entière, montagne de Sion, tu es la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Sion, c'est une montagne. Sion, c'est le lieu de l'allégresse. Sion, c'est le lieu où Dieu est présent. C'est la cité du grand roi. » Et dans Hébreux, chapitre 12, verset 22, dans le Nouveau Testament cette fois, l'apôtre qui écrit l'épître aux Hébreux dit c'est quoi Sion. Et il dit, au contraire, vous, c'est qui vous ? Nous. Au contraire, vous, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Voilà c'est quoi Sion ? L'assemblée des saints, le mot assemblée, c'est le mot ecclésia. Si tu préfères, c'est le mot église. Il dit ici, ce passage dit, dans le contexte d'Hébreux 12, il parle quand Dieu est devenu présent sur la montagne avec Moïse et qu'il était dedans la tempête, le tonnerre, les éclairs, et le peuple a eu peur et a dit Moïse, non, on ne veut pas de Dieu au milieu de nous. Toi, parle-lui, nous non. Mais ici, l'apôtre dit, vous expérimentez pas ça. Jésus vous permet d'avoir autre chose. Grâce à lui, au contraire, c'est-à-dire mais vous, au contraire, par rapport à eux, la différence par rapport à l'Ancien Testament, vous êtes dans une nouvelle alliance, une alliance que Jésus a scellée par son sang. Il a fait sa part et nous devons faire la nôtre. Il dit, mais vous au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Une montagne est un endroit qui se voit de loin. Vous êtes approchés de la montagne, de la cité du Dieu vivant, le lieu où Dieu est présent. Et c'est quoi ce lieu ? Ce lieu, c'est l'assemblée des saints, où les anges viennent et où les anges sont en fête et ils se réjouissent et ils servent ceux qui sont réellement les bénéficiaires du salut. Et là, les anges célèbrent la gloire de Jésus-Christ. Sion, c'est toi. Sion, c'est moi. Sion, c'est l'Église qui règne parce qu'on est cohéritier avec Christ, parce qu'on a intimité, parce qu'on marche dans réellement Bethléem, parce qu'on marche dans Adoulam, parce qu'on marche dans Hébron. Alors la conséquence, c'est Sion. Dieu fait la promotion. C'est quoi la promotion ? C'est qu'il élève la montagne, ça se voit. Il élève l'Église qui marche avec lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Les anges viennent. Sa présence est là. Il est vivant. Et les gens le voient. Ça, c'est Sion. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Sion, c'est le ciel qui touche la terre. C'est le lieu où Dieu manifeste sa puissance, sa présence. C'est le lieu où les anges sont là et les anges sont là ce matin. C'est le lieu où le surnaturel devient naturel. C'est le lieu où la réalité spirituelle communique à la réalité naturelle. C'est ça, Sion. Sion, si tu transportes en toi-même l'atmosphère d'un autre monde, quel monde ? La Jérusalem céleste, celui de Christ par son esprit. Ça, c'est Sion. Abdias 17 nous dit ceci. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Et elle sera sainte. Et la maison de Jacob possédera ses possessions. La montagne de Sion, il y aura la délivrance. Dieu est en train de dire, Sion, c'est nous l'Église. Et dans l'Église se trouve la délivrance. La délivrance pour la nation, dans l'Église. Frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire, c'est que même là, ce matin, si vous ne réalisez pas, c'est nous, Sion. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nous avec nos lacunes. Il nous voit avec le potentiel. Il nous voit avec la puissance de son Saint-Esprit. Il nous voit avec les capacités divines. Il ne nous voit pas limités. Comme Gédéon qui dit, oh, je suis vraiment petit. Jésus lui dit, non, va, Dieu lui dit, non, vaillant guerrier. Dieu voit l'Église comme une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, dangereuse. Lorsque nous, parfois, nous faisons des frères nos ennemis et que nous nous arrêtons sur les différentes opinions et sur le l'a dit, l'a fait, Dieu dit, non, 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 non. Ah, il y a un potentiel en toi, libère-le, j'ai tout accompli sur la croix pour ça, libère-le, libère ton potentiel. Ça c'est Sion, que nous regardent les anges, disent waouh, ces gars-là, ils ont le potentiel de capoter la réunion pour Jésus. C'est ce que Dieu veut dire. Frères et sœurs, et ça c'est pas par nos efforts, il est en train de dire, ces hommes-là et ces femmes-là, c'est mon peuple. Ils ont la capacité d'amener la réalité de Dieu dans cette réalité. C'est ce que Dieu veut dire lorsqu'il parle de Sion. Et ce n'est pas à cause de nos efforts, même si on doit être fidèle, mais c'est surtout grâce à Jésus. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est ça, Sion. Sion, c'est que tu comprends ceci. Que le sang que Jésus-Christ a versé apporte un meilleur message que celui d'Abel. Et son message dit non coupable. Son message dit enfant de Dieu. Son message dit je t'aime. Son message dit plus de condamnation. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, oh, ils n'arrivent pas des fois à comprendre qui ils sont. Je vais te dire quelque chose que j'ai dit cette semaine, auparavant, de célébrations précédentes. Toutes les mauvaises actions que tu as pu faire, rassemblées depuis que tu es né, elles auront moins d'impact que la bonne action que Jésus a fait à la croix pour toi. Une action de Jésus à la croix a suffi pour balayer toutes nos mauvaises actions. Si maintenant, on laisse notre conviction de nos mauvaises actions créer toujours un sentiment de condamnation, c'est qu'on est en train de croire que ce qu'on fait de mauvais a plus de puissance et d'influence dans notre vie que ce que Jésus fait de bon. Et ça, c'est pas la foi. On est en train de croire à ce moment-là que toutes nos erreurs ont plus de puissance que son acte de justice. On ne peut pas devenir Sion comme ça. Parce qu'on est toujours en train de galérer avec nos propres péchés et on n'est pas confiant dans qui on est. Sion, c'est les enfants de Dieu. C'est une affaire de famille. Qui savent quelle est leur destinée, amener le règne. Ils savent que Jésus est mort à la croix. Qu'il a versé son sang par amour pour chacun d'entre nous. C'est ça, Sion. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par son œuvre. C'est par sa grâce. Ça, c'est Sion. Le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le péché nous prive. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ce passage? Mais Jésus est dangereux. Jésus est dangereux. Jésus est venu faire en sorte que ce passage ne soit plus d'actualité. Il est venu faire en sorte que Adam et Ève qui ont péché ont été privés de la gloire de Dieu. Et lui, il est venu apporter la solution que malgré le péché, on ne soit plus privé de la gloire de Dieu. Et ça, yeah. Je ne sais pas si tu réalises, mais ça donne envie de faire pirouette, cacahuète. Hein. C'est-à-dire qu'il est venu apporter la solution par son sang, qui nous justifie. Et même si on pêche et qu'on demande pardon, on obtient sa grâce. Et il dit non coupable. Il dit c'est mon enfant. Et nous devons le croire. Je prenais cet exemple. Il y a des parents dans ce lieu qui ont des enfants qui sont assez grands. Imagine chez toi, ou toi-même quand tu étais enfant, si tu n'es pas encore parent, tu es chez ton papa et ta maman, et tu es là et tu ne sais plus qui tu es en fin de compte. Tu as perdu un peu la mémoire sur ton identité. Et tes parents te disent passe à table et tu dis moi. Tu ne sais plus où est ta chambre, tu ne sais pas s'il faut aller dans le lit. Tu ne sais plus réellement qui tu es. Les parents diraient, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas, non? Tu le marmailles, c'est plus s'il faut ouvrir le frigidaire, s'il peut, s'il ne peut pas. Il faut que les parents laissent. Et là, il se dit, bon, ben, je ne sais pas vraiment si je suis chez moi. Le problème, c'est que les enfants de Dieu réagissent comme ça. Jérémie tout à l'heure disait, vous êtes enfant de Dieu. Amen. Et après, quand l'ennemi arrive, l'ennemi fait, tu es pas un enfant de Dieu, toi, paf dans sa tête. Le règne. Pas de conviction que tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont comme ça. Ils oublient leur identité. Ils oublient qu'ils servent un grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Et à l'église, quand l'ennemi arrive, tu fais aïe, 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 aïe. Au lieu de dire, hey, tu vois qui je suis là, ne prends pas la tête, s'il te plaît. Je ne te dis même pas, s'il te plaît, d'ailleurs. Ne prends pas la tête tout court. C'est trop gentil de dire, s'il te plaît. Et tu dis, sors dans le nom de Jésus, tu le fracasses. Et tu règnes avec Jésus. Et son onction est sur toi. Et sa bénédiction est sur toi. Et sa paix est en toi. C'est ce que Dieu veut. C'est ça, Sion. C'est ça, Sion. Imagine, je terminerai sur cet exemple, en prier. Imagine ce que Jésus a fait en prenant l'exemple tout à l'heure de « Waouh !» Ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu, mais Jésus est venu mettre cette parole caduque. Parce que maintenant, il suffit de dire, attends, par le sang de l'agneau, yes, I've got it. Je peux à nouveau avoir accès à sa gloire. Ça ne veut pas dire pratique le péché. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Justement, si tu sais que tu es juste et que tu es un roi, fais tout pour ne plus pécher. Mais on pêche de façon d'une autre. Je ne parle pas de pratiquer, je parle des péchés parfois qu'on fait. Mais alors, il suffit de dire pardon, d'être transparent, on a vu Hébron. Et le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de nos péchés. Si vous confessez vos péchés les uns les autres, etc. Et alors, vous marchez dans la lumière, et tu marches dans la gloire, et tu marches dans la bénédiction. C'est comme si, je ne sais pas, imagine, tu as 1 million d'euros sur ton compte en banque. Et tu te disputes, tu pars dans ton couple, tu n'as pas le moral, tu as mauvaise nouvelle. Tu as un mauvais feeling, tu te sens vraiment pas bien et vraiment là, tu as mal réagi avec ta femme. Tu peux quand même, si tu veux, aller retirer 100 euros puisque tu as 1 million sur ton compte en banque. Oui ou non? Le fait de retirer 100 euros, 200 euros, 1000 euros ne dépend pas de ton feeling. Oui ou non? Son acte de justice ne dépend pas de ton feeling. Son acte de justice ne dépend pas de ton feeling. Que tu te sens bien, que tu ne te sens pas bien, que tu te sens enfant de Dieu, crois. Va au guichet, retire un peu de cash. Cash spirituel. Va voir Jésus dans sa présence et dis, oh non, restaure la relation. Ce qu'il a payé le prix pour que nous puissions régner, c'est ça Sion. Où l'Église va à la conquête. Où tu deviens l'Église et tu apportes la délivrance comme on a vu. Tu apportes la délivrance dans ton travail. Tu apportes la délivrance dans la sphère politique, médiatique, sportive, ce que tu veux. Mais tu brilles parce que Dieu t'a trouvé fidèle à Bethléem. T'a trouvé fidèle à Adoulam. T'a trouvé fidèle à Hébron, de la famille de Dieu. Et là, il te dit maintenant, promotion, Sion. Règne, exerce l'autorité. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Sion est une montagne qui se voit de loin. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, frères et sœurs? Si le groupe de louanges peut venir, s'il vous plaît.